Matthieu 5, 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, dans Matthieu 5, c'est un petit peu le cœur de ce qu'est la vie chrétienne. Matthieu 5 est la description de ce que Dieu veut pour nous. La différence entre la religion et Jésus, c'est que la religion te donne des préceptes, une liste des choses à faire pour être agréable à Dieu. Et Jésus ici, il ne parle pas de religion, il parle de la nature. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 5 toujours, ne résistez pas aux méchants. Vous avez appris, à chaque fois, Jésus le dit, même au verset 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc à chaque fois dans Matthieu 5, Jésus fait ce rapprochement-là entre ce qui a été donné comme loi et ce que lui produit dans la vie d'un homme. Il dit, vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent, un exemple. Mais moi je vous dis, si on te frappe sur une joue, donne l'autre joue. Alors celui qui entend ça, il voit qu'il y a une contradiction dans ce que lui il a appris et dans ce que Jésus dit. Mais en réalité, Jésus est en train de montrer là que la vie chrétienne, ce n'est pas une liste, ce n'est pas des préceptes, ce n'est pas une liste des choses qu'on doit faire ou ne pas faire, mais la vie chrétienne, c'est un don de soi. On donne sa vie pour le Seigneur. C'était une parenthèse. Maintenant, nous rentrons dans ce que le Seigneur dit. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors le Seigneur dit une chose. Il dit, alors que tu vas donner ton offrande, tu te souviens que tu as un grief ou alors ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande et va te réconcilier. En méditant ce passage, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur ne dit pas, donne ton offrande et plus tard, le soir, tu iras voir ton frère pour te réconcilier avec lui. Il nous arrive quelquefois d'être en litige avec une personne, de faire ce que le Seigneur nous demande, mais ensuite, on a pris la décision dans notre cœur d'aller voir une personne avec qui on est indifférent pour arranger. Mais là, le Seigneur ne dit pas ça. Il dit, si tu viens donner ton offrande, vaut mieux pour toi la garder, même s'il faut que tu la déposes, avec le risque que l'offrande se perde. Mais ce qui est important, c'est que tu t'es réconcilié avec son frère. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? Il y a plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est que l'adoration, c'est un tout. L'adoration à Dieu, c'est plus que le fait de donner quelque chose à Dieu. L'adoration, c'est notre vie. C'est ça, c'est ce que Paul dit dans Romains 12. Le culte raisonnable, le culte que Dieu agrée, c'est de se donner, s'offrir. L'intelligence est transformée. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Alors, puisque je vis pour Dieu, alors je me donne totalement. Et c'est ce que Dieu dit dans Psaume 50 au verset 7. Il dit, Israël, écoutez. Ce n'est pas à cause de vos holocaustes, vos offrandes que je vous reproche des choses. Parce que les holocaustes, les offrandes sont constamment devant moi. Ce n'est pas ça qui importe pour moi. Ce qui importe pour moi, c'est que vous puissiez m'offrir une véritable adoration, une véritable louange. C'est ça que Dieu attend. Et là, Jésus dit, alors quand tu vas donner ton offrande et que sur le chemin, tu te rappelles qu'il y a un problème, qu'en partant peut-être de la maison, tu boudais, Jésus dit, à ce moment-là, vaut mieux garder ton offrande, la mettre de côté, aller arranger et revenir après. Et comme je disais tout à l'heure, ma méditation c'était, pourquoi le Seigneur ne dit pas, donne ton offrande et ensuite engage-toi à aller arranger ça. Non, il y a une idée qui est derrière là. Et c'est ça le thème de notre partage. Jésus dit, pose d'abord l'offrande, va arranger et ensuite tu reviens. Le thème de notre partage ce soir, c'est « Réglons nos problèmes à l'instant ». Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec un humain. Comme on l'a dit, les deux sont liés. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 4, 20, qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si l'humain qui est en face de nous, on ne l'aime pas. Et Jean dira même que celui qui fait cela, eh ben c'est un menteur. Alors, on nous dit quoi? Le Seigneur dit, pose d'abord ton offrande, va te réconcilier, et ensuite, tu pourras venir donner l'offrande qui sera agréable. Le thème, c'est réglons nos problèmes à l'instant. L'idée qui est derrière là, ce que Jésus veut dire, c'est qu'il y a une urgence, d'abord, à avoir une vie en règle devant Dieu, que d'offrir tout ce qu'on peut offrir. Parce que sinon, cela n'a aucune valeur. Il y a l'ordre des choses que Jésus donne. C'est comme quand il dit, avant d'enlever la paille qui est chez l'autre, regarde d'abord, tu as une poutre dans ton œil. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas reprendre l'autre. Non, mais dans la façon de fonctionner, il y a un ordre. Je regarde à ma vie ce que je veux reprocher à l'autre. Est-ce que moi, vis-à-vis du Seigneur, je suis correct? Est-ce que ce problème que je vais reprocher à l'autre, est-ce que moi, sincèrement, est-ce que ce problème est réglé? Alors si, en faisant cet examen de conscience, je me rends compte que le problème est réglé, alors je serai un instrument fidèle que Dieu va utiliser pour changer aussi l'autre. C'est ça que Jésus dit. Il dit, quand tu te souviens qu'il y a un problème, l'urgence, c'est que tu laisses ton offrande, que tu ailles d'abord arranger. Non pas demain, c'est ce que je disais tout à l'heure. En méditant, je me disais, mais pourquoi le Seigneur ne dit pas, tu donnes l'offrande et tu vas arranger après? Non. Il y a des raisons à cela, parce que Dieu connaît aussi l'homme. On a dit la première raison, c'est que Dieu veut une adoration qui soit parfaite. Sans tâche, on a lu Lévitique, Deutéronome. On dit que même le sacrificateur lui-même devait se sanctifier. L'offrande qu'il devait donner devait être une offrande pur, sans défaut. Et l'autre objectif de Dieu, c'est que l'adoration qu'on va lui apporter, la louange, sera une louange de bonne odeur. Caïn a fait aussi un sacrifice à Dieu. Il a aussi sacrifié des choses à Dieu. Mais il nous est dit dans Hébreux que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que c'est une offrande qu'il a faite avec foi. C'est ça. Règle d'abord ton problème avec Dieu. Et règle quand? À l'instant. Non pas demain, non pas après, mais immédiatement. C'est ça que Dieu attend de nous. Nous lisons un passage qui est un petit peu dans le même esprit, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, 26 à 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la colère peut arriver. Puisqu'une situation se présente, cette situation me met hors de moi et je me mets en colère. Mais on nous dit, maintenant, quand cette colère est arrivée, n'agissez pas sous la colère. Pourquoi? Parce que quand tu agis sous la colère, c'est comme une sorte de drogue qui altère le discernement. La colère, c'est comme quelque chose qui vient, qui enlève une forme de barrière. Parce que tout humain, tel que nous sommes, on a certains interdits dans notre conscience. Il y a des choses qu'on ne va pas se permettre de faire. Voir quelqu'un comme ça sur la route, venir gifler la personne. Mais dans la conscience, pour un homme qui fonctionne normalement, ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais maintenant, cela devient possible quand tu es en colère. C'est-à-dire que la colère t'inhibe, la colère t'enlève ce bon sens-là qui fait que c'est une personne âgée, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon voisin, c'est un inconnu. Quand tu es sous la colère, eh ben, ce discernement-là est altéré. Ça fait que tu agis sans avoir réfléchi. Généralement, c'est après qu'on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça que Dieu est en train de dire là. Et nous lisons maintenant ce qui nous intéresse. Il nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà ce que le Seigneur dit. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il veut dire que lorsque tu te mets en colère, règle cette situation-là qui te met en colère rapidement. Pourquoi? Parce que en nourrissant la colère, eh ben, parce que la colère, c'est quelque chose qu'on a, un sentiment, qui fait qu'un jour ou l'autre, ça va sortir. Ça sortira d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, quand on est en colère, soit dans le cœur, si ça ne sort pas comme ça de manière audible, mais même dans le cœur, eh ben, on va nourrir des sentiments par rapport à une personne. On va prendre une décision. Ou alors, on va insulter la personne. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, on va frapper. Mais la colère, lorsque se manifeste, le Seigneur nous dit, ben, ne te couche pas sous la colère. Pourquoi? Parce qu'en te couchant sous la colère, tu nourris cette colère-là. Tu la nourris. Tu l'alimentes. Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a eu des situations qu'on a connues qui nous ont mis hors de nous. Mais plus la situation dure, eh bien plus peut-être que tu avais juste un mauvais sentiment pour un frère ou pour une personne. Mais plus le temps passe, tu restes dans cet état-là. Eh bien, le diable, c'est ce qui est écrit hein, au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Cet état-là fait quoi? Ça fait que le diable a une porte ouverte. Ce qui fait qu'une simple colère contre une personne, contre ton père, contre ta mère, va se généraliser. Puisque tu as alimenté ça, puisque tu as gardé ça, puisque tu as enfoui ça, puisque tu t'es construit une carapace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qui arrive qu'il y a des femmes, par exemple, qui décident, eh bien, moi, j'ai été battue, eh bien, les hommes, je ne fais plus confiance. Finalement, la colère que tu as, je ne sais pas si je me fais comprendre, contre une seule personne, puisque tu l'as nourrie, tu ne l'as pas réglée, eh bien, cette colère-là, bien sûr, avec le travail du diable, parce que comme tu es dans cet état-là, de haine, de méchanceté, eh bien, le diable vient, il nourrit ça. Finalement, ce n'est plus une colère contre une seule personne, c'est contre tous les hommes. C'est ce qui peut expliquer les mouvements féministes, des gens qui sont ultra, ultra contre les hommes. Ou alors, ça peut être aussi l'inverse. Ou alors, ça peut être un enfant qui a été battu, qui n'a pas le moyen de se défendre, eh bien, qui enfouit ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, un jour ou l'autre, eh bien, il va avoir de la haine ou de la colère, de l'aversion contre toutes les personnes qui ont l'âge de son père. Il n'a pas le respect parce qu'il se dit « Non, mais comment je vais respecter les gens? Moi, j'ai été maltraité. » Puisque cette colère-là, on l'a nourrie, on l'a alimentée. Et quand je dis on l'a nourrie, alimentée, le diable vient pour te dire « Voilà, regarde ce qu'on t'a fait, mais ta vie est détruite. Regarde, tu ne sers plus à rien. » Il y a des gens par cette colère-là, des femmes qui se retrouvent prostituées parce qu'elles ont été abusées. Ce sont des réalités. Je me suis dit, puisque j'ai été déshonoré et que je me sens sale, eh ben maintenant je veux me venger aussi. Puisque les hommes ont une faiblesse de ce côté-là, eh ben, puisque moi j'ai été abusé, maintenant je vais être en position de force. C'est moi qui vais utiliser les hommes comme des objets. Pourquoi des objets? Pourquoi? Parce qu'il y a une colère qui enfuit, qui fait que un jour ou l'autre, ça finit par se manifester. Et le Seigneur nous dit, si tu te mets en colère, n'agis pas. Mais il rajoute, il dit, attention, ne te couche pas sous la colère. Puisqu'en te couchant sous la colère, le diable, tu ouvres une porte, le diable va alimenter cette colère. Il va alimenter cette colère-là. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'entendent tel c'est un pasteur parce qu'il a été trompé par des pasteurs. Et il y en a qui vont même prendre des positions totalement radicales contre les églises, les assemblées, je veux dire. Puisqu'il y a une colère qui a été nourrie. Mais comme j'ai dit, la colère, c'est quelque chose, si ce n'est pas traité, eh bien, un jour ou l'autre, ça sortira. Le Seigneur a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que le cœur va se nourrir, mais un jour ou l'autre, ça sortira. Ça sortira. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été réglé à temps. Parce que ça n'a pas été travaillé. Parce qu'on ne s'est pas humilié pour dire, Seigneur, cette situation, je ne veux pas la garder longtemps. Seigneur, aide-moi. Et c'est ça que le Seigneur lui dit. Ne passez pas la nuit dans cet état-là. Puisqu'en passant la nuit dans cet état, le diable vient te montrer le mauvais côté de l'autre. Le diable vient te dire, mais en plus, c'est toi qui as raison, regarde comment tu souffres. Mais en plus, les autres sont injustes. Mais en plus, Dieu ne fait rien. Et c'est ça. Et le Seigneur nous dit, le conseil qu'il nous donne, c'est de traiter le problème rapidement, immédiatement. De dire non, je refuse. Je renonce à cela. C'est ça. Bien-aimé, les choses que je suis en train de dire, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. On peut mettre une carapace, on peut tromper les humains, mais Dieu, on ne le trompe pas. Les conseils qu'il donne, il les donne parce qu'il connaît l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Je vais vous donner un exemple. Un homme comme Judas. Judas était mauvais dans le sens où il avait des mauvaises dispositions de cœur. Judas était méchant. Judas, on sait tous qu'il aimait l'argent. Et c'est même écrit qu'il volait l'argent. Mais sa méchanceté avait une certaine limite parce qu'il était avec Jésus. Il vivait avec Jésus. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec le fonctionnement de Jésus, contre l'argent, en prêchant l'amour, en prêchant, ben il était contre. Mais ça se limitait là. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que Judas aille trahir Jésus? Je nous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fallu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Judas puisse trahir Jésus? Il y a un détail qui nous est donné, c'est lequel le diable est entré en lui. C'est ça que je suis en train de dire. Il a fallu que le diable entre en Judas. Comme j'ai dit, il était déjà mauvais, il était méchant, il aimait l'argent, il était escroc, il était... Oui, mais ça c'est à l'échelle humaine. Mais il a fallu qu'il y ait maintenant du spirituel. Il a trempé le pain, le diable entre en lui et c'est à ce moment-là qu'il est allé jusqu'au bout. Alors qu'il a eu le temps. Je me suis toujours posé cette question-là. Mais Jésus qui est fils de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est écrit pour choisir les disciples. Il a prié toute la nuit. Mais pourquoi il a choisi Judas? Eh bien, la réponse est simple, elle est merveilleuse. C'est que Dieu a tant aimé les hommes, afin que quiconque... Donc dans le quiconque-là, Judas en fait partie, en faisait partie aussi. Jésus savait qu'il était mauvais. Mais par le choix de Dieu, de le choisir comme disciple, Jésus lui montre que tu peux être sauvé. Tu es sauvable. Tu peux être sauvé. Mais il suffit que tu aies les bonnes dispositions du cœur. Mais finalement, Judas n'avait pas les bonnes dispositions et le diable est entré en lui. Il a été utilisé par le diable, finalement, pour vendre le Seigneur. C'est cela. Lorsqu'on a des problèmes dans les cœurs qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas résolus, qu'est-ce qui se passe? Le diable a un droit. Le diable, c'est comme un procureur. Pour ceux qui suivent un petit peu les histoires judiciaires, un procureur, c'est celui qui vient à charge. C'est celui qui vient t'accuser pour dire voilà ce qu'il a fait. Et il en court tant, il en court tant, il en court tant. Et le diable, c'est ça le travail qu'il fait. Alors lorsqu'il y a une porte ouverte, lorsque le problème n'est pas réglé, lorsqu'on remet à demain, c'est ce qu'on a lu dans le premier passage de Matthieu 5. Jésus dit, laisse ton offrande. La chose est tellement importante, la réconciliation que Jésus demande est tellement importante que le don que tu veux lui faire n'a aucune importance. elle ne prendra de l'importance que quand tu auras fait les choses selon les règles, dans la réconciliation. Là, ça a un goût, ça a une saveur pour Dieu. Mais quand on garde les choses, quand on les nourrit, quand on les alimente, le diable vient, il utilise cela. Et ça fait des dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Judas s'est rendu compte de ce qu'il a fait, malheureusement, au lieu de se repentir, ben, il est parti se suicider. Mais c'est ça que produit la colère. Le discernement est altéré, on agit, on réalise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, il y a les deux rappeurs qui sont passés en jugement hier. Et j'écoutais un petit peu ce que disaient les avocats de chacun, l'autre de Booba, qui Booba se présente, des papas de 45 ans. Il se présente devant le juge. Bien aimé, là, il n'y a pas de caïd. Hein. Parce que quand vous écoutez la musique, c'est... mais là, devant la barre, là, déjà, ils ont goûté à la prison 3 semaines. Et là, tu te retrouves, il se retrouve devant le procureur, devant le juge, devant tous les autres. Là, je peux vous dire, la tête est baissée. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. Moi, j'ai donné un coup juste pour intimider l'autre. Mais oui, mais ça, c'est après coup. Mais sous le coup, là, quand tu es énervé, toi, tu ne penses pas. Ah non, non, toi, ton objectif, c'est faire mal à l'autre pour montrer que moi, je suis fort, je suis grand. Mais maintenant, les conséquences, c'est quoi? C'est 100 000 euros d'amende. Voilà, quelque chose qui n'était pas prévu. C'est sursis. C'est 3 semaines de prison. C'est ça. Quand tu agis, tu es tout puissant, tu es fort. Mais c'est après que les autres viennent te rappeler, non, tu n'es rien du tout. Puisque maintenant, c'est la juge, une femme, qui va décider maintenant sur ton sort. Moi, j'ai déjà assisté à des audiences pénales où tu vois un papa costaud qui parle, la juge est là en face, elle dit, monsieur, taisez-vous, c'est moi le chef ici. Et là, qui va parler? Tu vois le papa costaud qui baisse. Là, il n'a pas le choix. Mais quand tu es sous la colère, tu penses que c'est toi. Mais après coup, tu te rends compte que finalement, les dégâts sont irrémédiables. Et c'est ça que produit la colère. Et le Seigneur nous dit, réglons les choses quand elles sont petites. Réglons-les vite. Pourquoi? Puisque si on ne règle pas les choses, on a dit, hein, on donne accès, on donne un droit au diable. Si on ne donne pas, si on ne règle pas la chose, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ne peut pas être un instrument que Dieu va utiliser fidèlement. Et troisièmement, si on ne règle pas la chose, qu'est-ce qui se passe? On l'a lu dans Matthieu 5, au verset 26. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le procureur va te prendre. Il va t'emmener où? Auprès de l'officier de justice. Et quand l'officier de justice prendra la décision, eh ben, les choses seront différentes. Les choses seront différentes. Donc, réglons les choses avec Dieu quand les choses sont petites. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de ces rappeurs qui s'envoient des colibés par chansons interposées. Là, c'est sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais ils avaient l'occasion de se mettre ensemble pour se dire, bah, écoute, on est des pères de famille. Mais non. Ils se sont tapés dessus et voilà maintenant les arguments des avocats. Oui, il faut comprendre, ils sont des chefs d'entreprise, ils sont des pères de famille. Vous vous rendez compte, un père qui est privé de ce... Ah, mais oui, mais c'est ça le péché. Là, quand on donne des arguments, bien aimé, vous avez l'impression qu'on parle des petits-enfants qui ont fait une bêtise, qui se sont trompés, mais c'est ça. Pourtant, pour ceux qui ont vu des images violentes, on se dit, mais quelle violence! Quelle violence! Alors le Seigneur nous dit, quand les choses sont petites, réglons-les. Je vais donner un autre exemple. Lorsqu'on voit, et c'est un exemple qu'on nous donne souvent, un panneau de signalisation routière, c'est un simple panneau. On te dit interdit de stationner. Bon, oh, moi j'ai pas le temps. C'est un panneau. Bah, tu te stationnes. Tu auras une amende. Ici à Rouen, maintenant, c'est 17 euros. On dira, oh, 17 euros. Qu'est-ce que c'est, 17 euros? Mais si tu ne payes pas, l'amende est majorée. Si tu ne payes pas, ça monte encore. Alors que tu aurais pu éviter ça en cherchant une autre place pour te garer. Ou alors en payant parfois même 1 €. Mais tu dis, oh, c'est un simple panneau. Mais ce simple panneau-là, si tu ne le négocies pas correctement, c'est ce panneau-là qui va te négocier. C'est ce panneau-là qui va te négocier. Tu passes de 17 €, tu vas te retrouver à plus de 1 000 €. Parfois même, certains passent en jugement pour ça. Pour mauvais stationnement, parce qu'il n'a pas voulu payer. C'est pour nous dire, c'est le même principe spirituel aussi. Lorsque les choses ne sont pas réglées quand elles sont petites, le diable va utiliser ça pour bien t'enfoncer, pour te dire, oh, tu es un grand, tu es un fort, oui. Mais tu auras affaire à Dieu après. Et là, les choses seront différentes. Là, les choses seront différentes. Et le Seigneur nous dit, pendant que tu peux, tu marches avec ton ami sur la route, arrangez-vous à l'amiable. On signe une décharge en disant, bon, allez, on s'arrange comme ça. Mais si toi, tu fais le caïd, le dur, en disant, non, moi, je ne veux pas. Ah, ok. Maintenant, ça ne sera pas à l'amiable, ça sera en justice. Et en justice, le juge te dira, monsieur, vous avez causé un dommage à l'autre, donc vous devez payer plus. Et c'est ça. Alors le Seigneur nous dit, lorsque les choses sont petites, réglons-les. Réglons les choses, réglons les problèmes, réglons les situations. Quelle est la situation que je dois régler devant le Seigneur? Est-ce que c'est la colère que je garde vis-à-vis d'une personne? Mais cette colère-là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cette colère, de jour en jour, va faire quoi? Ça va faire qu'on va s'endurcir. Et c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, là où je travaillais à Évreux, il y a des vrais durs, des vrais jeunes qui ont été façonnés ou travaillés par la vie. Alors ce sont des jeunes qui ont une carapace. Pourquoi? Parce que ils ont eu tellement de déceptions dans leur vie. On leur a promis ceci, on leur a promis ça. Ils ont été victimes d'abus. Ils ont été. Alors toutes ces choses-là font qu'un jeune à 17 ans, ah ben, il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur de rien. Non seulement il n'a plus peur de rien, mais l'adulte, pour lui, c'était un comique. Parce qu'il a eu un exemple d'adultes autour de lui qui n'ont pas tenu parole, qui n'ont pas été responsables, qui n'ont pas bien fait les choses. Et toutes ces choses, ça a nourri une méchanceté qui fait que finalement, il en veut à la société. Quand il voit un policier, il insulte le policier. Mais je demande, mais pourquoi tu insultes le policier? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a pas de raison. Mais en réalité, il y a une raison. C'est parce que la police représente l'autorité. La police représente la loi. Et comme il est souvent hors la loi, il a affaire à la police, eh ben, il pense que c'est la police qui lui en veut. Et moi, j'explique, je dis, non, c'est pas ça. Si tu n'as pas de problème, si tu n'as rien à te reprocher, eh ben, la police va te protéger. Mais tu n'aimes pas la police parce que tu es du mauvais côté. Mais c'est pour dire que ce sont des colères qui sont enfouies, qui n'ont pas été réglées, résolues, et qui font qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des tueurs en série. Je suivais, c'est une histoire que je raconte souvent, de l'histoire du fils de Sam, David Berkovitch. Il est devenu tueur en série. Pourquoi? Comment? Par la haine qu'il a nourrie des adultes. Il a été adopté. Et du fait qu'il ait été comme ça adopté, finalement, là où il était, cette femme meurt, qui était comme sa mère. Et tout ça, ça. Pourquoi j'ai été adopté? Pourquoi ma mère que j'aime, qui m'a adopté, meurt? Mais pourquoi si? Et finalement, il en est arrivé à tuer les femmes. Sans explication comme ça. Et beaucoup de tueurs en série, lorsqu'on voit leur histoire, c'est ça. Ce sont des drames familiaux, ce sont des histoires qu'ils ont vécues, parfois seuls, et bien pour se venger, et bien il va se faire justice lui-même. Et c'est ça que Dieu dit, ne dormez pas sous la colère, parce que quand tu dors sous la colère, et bien tu la nourris, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la colère va s'exprimer un jour ou l'autre. Mais quand elle va s'exprimer, c'est qui le juge? C'est celui qui est en colère qui est le juge. Or, Dieu nous dit dans Romains 12, 19, n'agissez pas sous la colère. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit laissez agir la colère. C'est-à-dire, quand la colère vient, eh ben, laisse-la passer. Et une fois qu'elle est passée, maintenant, moi, je peux faire justice. C'est ce que Dieu dit. Mais bien souvent, nous-mêmes, on fait justice. On se met dans des problèmes parce qu'on fait mal. Mais en plus, on a encore un problème avec Dieu derrière. Qui va dire, pourquoi tu as fait ça, tu n'as pas le droit. C'est ça. Alors le Seigneur nous dit, tant que les choses sont petites, arrangez-les rapidement. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de réparer, d'arranger rapidement? Ben, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Nous lisons l'histoire d'un jeune qui a vécu cela, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion lorsqu'il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Alors c'est l'histoire du jeune fils qui vient voir son père en disant, « Mon père, donne-moi l'héritage qui me revient et je vais aller faire ma vie. » Déjà, quand on lit l'histoire, on voit qu'il y a un problème. Comment, alors que le père est en vie, tu viens demander ta part d'héritage? Donc, en réalité, l'attitude de cet enfant montre que son père, finalement, n'était plus vivant pour lui. Il est là, comme peut-être son géniteur, mais il n'a plus aucune autorité. Puisque lui, il assume, il pense qu'il peut s'assumer tout seul. Il pense qu'il peut s'assumer tout seul. Alors, le père lui donne, il laisse partir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on dit quelques jours après, quelques temps après, avoir tout dissipé, il se retrouve dans la famine, dans la souffrance. Il a tellement souffert qu'il pensait même, qu'il mangeait même la nourriture des pourceaux. Quelle souffrance! Quelle humiliation! Mais on le dit au verset 17. Il est rentré en lui-même. Il se dit, mais pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi je souffre ainsi? Je souffre tellement que je suis tellement bas que je ne peux rien à perdre. Alors ce que je veux faire, je vais retourner vers mon père et je veux lui dire qu'il me traite même comme un étranger. Qu'il me traite même. Alors la question que je me suis posée, combien de temps cet enfant est resté, ce jeune est resté dans cette situation de souffrance? On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que sa souffrance s'est arrêtée à quel moment? Au moment où il a voulu se mettre en règle. Où il s'est humilié. C'est à ce moment-là que la souffrance s'est arrêtée. C'est pour nous dire que parfois, on vit des situations difficiles tout simplement parce qu'on a fait des mauvais choix. Par orgueil, on se dit, je m'assume. Ici, on parle du plus jeune. Et bien souvent dans la Bible, la jeunesse est liée à, d'une part, le côté négatif, la jeunesse est liée à l'inexpérience, l'immaturité. Mais d'autre part, la jeunesse est liée aussi, la jeunesse souvent représente la force. On dit Samson, lorsqu'il est parti, il rencontra un jeune lion. Souvent, quand on parle de jeunesse, on voit la vigueur, On voit David, on sait comment il a servi le Seigneur. On voit même les prophètes Jérémie, tous les autres. Gédéon, ils étaient jeunes. Souvent, la jeunesse dans la Bible, c'est la force. C'est quelqu'un qui ne se pose pas des questions. Et en réalité, c'est comme ça. Un jeune, généralement, il ne prend pas le risque comme un adulte. Hein. Un jeune, s'il doit escalader quelque chose, il va le faire. Mais l'adulte, il calcule, il dit, ah, là, si je me casse la jambe, déjà, j'ai une famille, j'ai un travail. En plus, le temps que la jambe se répare, l'adulte, mais le jeune, lui, ah ben on y va, il y va, puisqu'il n'a pas ce risque-là dans sa tête. Il ne se pose pas de questions, et c'est ça le cas. Il se dit, mais je peux m'assumer tout seul. Finalement, qu'est-ce que mon père fait? Je suis à la maison, je mange, je dors, je m'habille, c'est tout. Il se dit, mais je peux aussi faire ça. Je peux le faire, mais la réalité, c'est que, on a vu beaucoup, hein. Je prends mon appartement, je prends, mais il faut assumer. Tu es dans l'appartement, tu ne vas pas manger l'appartement. Tu ne vas pas chauffer, les murs ne vont pas se chauffer tout seuls. L'électricité que tu utilises, mais l'électricité, on paye ça. Mais peut-être que les parents ne te disent pas cela. Toi, tu ouvres le robinet, comme ça, il y a de l'eau. Mais ici, en France, il y a des endroits où tu arrives, l'eau est coupée. Hein. Ça existe ici, en France. Ça existe. Mais comme tu ne vois pas ça, tu te dis, ah, ben moi aussi, je peux m'assumer. Finalement, ce que mon père fait, moi aussi, je peux le faire. Ah non, détrompe-toi. Et le jeune dit, ben moi, je suis fort, je peux m'assumer. Et la famine arrive à ce moment-là. Il souffre tellement. Il se dit, eh ben, je vais voir mon père. Je vais lui dire que je me suis trompé. Je veux lui dire que j'ai mal fait. Mais il faut de l'humilité pour ça. Parce qu'à ce moment-là, tu penses, mais que va dire mon frère? Que vont dire les voisins qui sont autour? Ils vont se moquer de moi en disant, mais tu es parti. Tu pensais t'assumer. Tu es parti avec beaucoup d'argent. Voilà, tu as tout perdu. Mais toutes ces choses-là passaient dans la tête du jeune. Je pense que c'est pour ça qu'il a résisté jusqu'à manger la nourriture de cochon. Mais à un moment donné, comme il était qu'au verset 17, il est rentré en lui-même. Le bon sens, il s'est dit non. Je veux faire la paix avec mon père. Je vais arranger la situation. Et une fois qu'il est revenu vers son père, il a été rétabli dans son autorité de fils. Le père dit, allez, ramenez le manteau. Il prend la bague. L'autorité, il dit, eh, tiens, voilà, tu es mon fils. C'est cela. Et bien souvent, nous sommes comme ce fils, on résiste à cause de l'orgueil. On ne veut pas s'humilier. Parfois dans le couple, chacun est dans sa position. On estime que si je vais m'humilier ou demander pardon, ah ben l'autre va me marcher encore dessus. Et parfois le diable utilise ça quand tu viens comme ça. L'autre, tu viens, bon, je viens te voir pour dire pardon. Ah, mais je t'avais dit, hein, j'avais... Ah, voilà. Le diable te dit, ah, voilà, il fallait même te taire. Voilà que tu lui donnes maintenant raison. Mais ça, c'est le diable. Le thème de ce soir, c'est réglons nos problèmes immédiatement. Quitte à avoir tort, réglons les choses. Quitte à passer pour celui qui a tout perdu, réglons les choses. C'est ce que le Seigneur dit. Quand tu veux donner ton offrande, tu te souviens que tu as un problème. Et dans Matthieu 18, le Seigneur dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On peut lire ça. Matthieu 18, verset 5. On dit que tu te souviens que... Matthieu 18, 15. Non, ce n'est pas Matthieu 18, 15, là c'est autre chose. On dit, ton frère a péché, reprends-le. Non, on reste dans Matthieu 5. Voilà, c'est dans Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il y a une très bonne nuance là. Parce qu'en méditant, je me disais, moi je pensais que ce verset là c'était que toi, tu as quelque chose contre ton frère. Mais là, on dit même pas ça. On dit que ton frère a quelque chose contre toi. Est-ce que nous voyons la nuance? Il y a une nuance entre les deux. C'est-à-dire que tu as peut-être généré, tu as eu un comportement qui a peut-être blessé ton frère, mais sans que tu t'en rendes forcément compte. Mais le Saint-Esprit te parle, te reprend pour te dire, non, tu viens donner ton offrande alors que de l'autre côté, tu as blessé quelqu'un. Et l'autre n'est pas content. L'autre est triste à cause de toi. Alors on nous dit, c'est ton frère qui a un problème, mais on nous dit quoi? Va le voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le problème, il n'est pas directement de toi, mais le Saint-Esprit est là pour te dire, là, tu as mal parlé à l'autre. Là, tu as fait une remarque à l'autre qui l'a blessé. Même si physiquement, tu peux prouver que non, mais j'ai pas mal fait. Mais oui, le Saint-Esprit lui va te dire, peut-être que toi, tu as rigolé, tu t'es moqué de l'autre, peut-être en rigolant, mais l'autre a été blessé. Alors, il n'est pas content. Il est triste. Alors là, on nous dit, ben, toi, va arranger. Et c'est ce que nous dit Hébreux 12 aussi. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Donc, c'est-à-dire que, c'est ça les enseignements de base pour ceux qui font, c'est-à-dire que la balle est dans ton camp à toi. C'est à toi de faire la démarche. Quitte à avoir tort, va faire la démarche. Quitte à ce qu'on te reproche quand tu arrives pour demander pardon, on te reprend, on t'insulte même, toi, tu as fait la démarche. C'est ça que Dieu attend de nous. Je me rappelle une fois, il y a une situation qui s'est passée lorsque j'étais à Évreux avec un collègue. Et le collègue s'est énervé, on était en formation. Et mon téléphone était sur vibreur dans le sac. Alors, ça a vibré une fois. Il s'est énervé. Ça a vibré une deuxième fois. Il s'est énervé. Bon, je me suis dit, bon, je vais éteindre le téléphone. Et là, il s'est mis à parler. Et tous ceux qui étaient à côté, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a, François? Bon, deux jours après, je vais voir le collègue pour dire, tiens, François, je vais m'excuser pour... Non, voilà, ce qui l'a énervé, c'est que pendant la formation, donc quand le téléphone a vibré, il s'est énervé, il m'a interpellé, je l'ai regardé. Et donc, il me parlait, je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, la façon dont il a parlé, vous savez, c'est en formation, ce sont des petites salles, hein, des toutes petites salles où tout le monde est autour d'une table. Ah bah, il s'est mis à parler, c'est tellement gênant, j'étais tellement dans une situation embarrassante, j'ai préféré me taire. Donc, il m'interpelle, je n'ai pas répondu, je l'ai regardé, il dit bon, je vais éteindre le téléphone. Ouais, mais je te parle, tu ne me réponds pas. Et il s'est encore énervé. Et deux jours après, je veux le voir pour dire, tiens, François, je viens te voir pour ce qui s'est passé. Je viens m'excuser, mais aussi, je veux te dire pourquoi je n'ai pas voulu répondre lorsque tu m'as interpellé. Oh, non, 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 vous êtes toujours comme ça. Et il est parti en colère. Et il y avait un troisième collègue, un ancien, Patrick, qui voit François partir. Il dit, mais François, il prend François par la main. Il dit, mais viens. Il dit, mais t'as pas honte. Bien-aimé. Ces deux païens, Patrick prend François et dit, mais tu n'as pas honte. Il vient te voir pour s'excuser et toi, tu préfères fuir. Il dit, mais t'es un lâche. Donc, c'est le monsieur, Patrick, qui commençait à remplir l'autre. Il dit, mais tu devrais avoir honte. Ne serait-ce que par politesse, quand quelqu'un vient te voir, tu écoutes ce qu'il a à te dire. Après, si tu veux discuter, tu discutes. Mais ça, c'est la politesse, nous sommes éducateurs. Alors quel exemple tu veux donner maintenant aux jeunes, si toi tu te comportes comme ça? Bon, il a été gêné, mais je vous dis, depuis ce jour-là, il est l'homme le plus gentil. Je pense qu'il a été interpellé par son attitude. Bon, moi, je suis assez le même, moi j'ai fait la démarche d'aller le voir pour lui dire, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je viens te demander pardon. Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Je pense qu'accusé par la conscience, son attitude a totalement changé. Bienveillant, attentionné. Tu veux quelque chose? Tu veux. Bon, que Dieu soit béni. Mais c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que parfois on va faire la démarche, Mais la démarche ne sera pas toujours bien accueillie. Parfois, tu seras humilié. Mais là, le diable va te dire, mais voilà, tu viens demander pardon. Mais lui, il te chasse encore. Bah, va de ton côté. Non, non. Autant que cela dépend de toi, fais la démarche. Tu te souviens que ton frère, l'autre, a quelque chose contre toi. Bah, toi, fais la démarche d'aller le voir pour arranger. C'est ça. Mais l'orgueil nous bloque. L'orgueil nous dit non. Si tu vas comme ça, c'est toi le perdant. C'est toi qui vas perdre. Bien-aimé, faut mieux être le perdant avec le Seigneur que le gagnant sans le Seigneur. Parce que tu es gagnant sans le Seigneur, mais un jour ou l'autre, tu seras perdant devant le Seigneur. Parce que tu auras affaire à lui. C'est lui le véritable juge. C'est lui le vrai juge. Il te dira, oui, tu as gagné. Parce que tu t'es fait justice. Mais maintenant, moi, je viens faire justice. Et montrer à tout le monde que tu as eu tort. Et là, ce sont des pleurs et des grincements dedans. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à arranger, à ne pas traîner comme ce fils qui a perdu du temps, à cause de l'orgueil. Mais finalement, il s'est ravisé. Il s'est dit non, c'est pas normal. Pourquoi je souffre ainsi alors que je peux être en paix avec mon Père? Alors je vais retourner vers mon Père, je vais faire la paix avec mon Père. Arrangeons les choses, bien-aimés, rapidement. Lorsqu'on a l'occasion, faisons-le. S'il faut appeler, faisons-le rapidement. N'attendons pas. Le diable veut qu'on attende. Le diable veut que la situation passe, que la situation traîne. Le diable, il aime ça. Mais comme on a lu, que quand on va se coucher, de ne pas rester nourrir la colère, eh bien, le diable, lui, va nous pousser à cela, à rester dans cette position-là. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le danger de cette attente-là, le danger de cette attitude, c'est quoi? La première, c'est que finalement, on n'est pas en paix avec Dieu. Finalement, on n'est pas en paix avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, ben, laisse ton offrande. Vaut mieux pour toi être en paix avec Dieu que de faire des sacrifices. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe 58 lorsqu'il parle du jeûne. Il dit, vous jeûnez, vous mettez le sac, la cendre pour montrer que vous vous humiliez. Mais Dieu dit, je ne prends pas plaisir à cela. Il dit, le véritable jeûne, c'est délit. Les chaînes des opprimés. Et quand Dieu parle, il parle au présent. Il parle, il dit maintenant, à l'instant là. Change d'attitude, c'est ça que Dieu veut. C'est immédiatement. Mais le diable va vouloir que ça traîne. Et comme j'ai dit, avec l'exemple de Judas, avec l'exemple que j'ai pris tout à l'heure des contraventions, ce n'est qu'une contravention, oui, ce n'est qu'un papier, oui, oui. Ce n'est qu'un papier, mais ce papier-là a un pouvoir, bien-aimé. Il y a des courriers, tu le reçois, ce n'est qu'un courrier, mais tu as peur. Pourquoi tu as peur? C'est juste un courrier. Mais il y a des papiers qui ont un pouvoir. Tu reçois, on vous dit, monsieur, vous êtes redevable, service des impôts, recouvrement, redevable de 1500, bien-aimé. Un papier, mais je peux te dire que tu ne vas pas dormir. Hein. C'est un papier. Mais ce papier-là a un pouvoir pour t'enlever même la paix. On dit, monsieur, après vérification, vous êtes détenteur de 0 point, comme ils disent. Permis de conduire. Ah, tu peux faire le costaud, parce que 0 point, qui voit ça? Personne. Qui voit que tu n'as plus de point? Personne ne voit cela. Toi, tu es là, tu t'habilles, tu prends la voiture, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas tomber sur le policier, il va taper ton nom. Ah, là, le papier, là, a maintenant une autorité sur toi. Ce simple papier que tu négliges, il a une autorité sur toi. Et le diable va vouloir que ça traîne. En traînant, tu n'as pas la paix. Nous lisons ce que David dit, il décrit son état, psaume 32. Psaume 32 de David. psaume 32, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 6, on peut lire. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Voilà ce que David dit. David dit « Heureux l'homme que Dieu pardonne !» Mais pourquoi David dit ça? Parce que David souffrait, il portait la peine, la culpabilité du péché qu'il a commis. En allant avec la femme du riz, mais non seulement en allant avec elle, en ayant fait une conspiration, un complot pour tuer Uri. Il dit à ses hommes, Joab et tout, il dit « Mettez Uri en première ligne et il tombera en embuscade. » Finalement, Uri est tué. Et de l'autre côté, il a pris la femme d'Uri. Et bien, David vit dans cette culpabilité-là. Et le prophète Nathan vient lui parler. Il lui dit « Tuez cet homme. » David dit « Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. » Bien-aimé, David est roi. Il est roi. Mais il vivait avec ça. Quelqu'un qui vit avec la culpabilité, il a beau être l'homme le plus malin, le plus intelligent, un jour ou l'autre, il va se faire avoir. Bien-aimé, l'actualité est là pour nous raconter cela. L'actualité est là pour nous raconter cela. On a vu l'histoire de Jonathan Daval, pour ceux qui suivent un peu des informations. Pendant 6 mois ou 8 mois, il a pleuré, ma femme a été tuée, il est parti faire du jogging, il a fait... Mais finalement, bon, bien qu'il y ait des rebondissements aujourd'hui, mais finalement, la pression est tellement forte qu'un humain, même s'il a été soutenu par des démons, mais ces démons-là ne seront pas toujours là. Sous la pression, eh ben, tu vas céder. On a vu l'histoire avec la petite Maïlys, j'ai oublié le monsieur, Nordal, le Landais. Un homme qui a fait l'armée, donc qui connaît bien, qui connaît les vices, qui sait comment faire pour dissimuler les preuves. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a fait tourner les enquêteurs en rond, j'allais dire un terme. Il les a fait tourner en rond pendant longtemps. Mais finalement, comme en français ils disent, hein, mentez, il y restera quelque chose. Tu vas mentir en disant, c'est comme si, parce que les enquêteurs, ils vont te mettre devant tes contradictions. À 10h audition, à 11h audition, à 13h audition, ils te laissent te reposer. À 15h, ils reprennent l'audition. Bien aimé, même si tu es le plus grand menteur, à un moment donné, tu vas te contredire, parce qu'il y a la fatigue. Il y a la fatigue psychologique, il y a la fatigue physique, parce que parfois tu ne manges pas, parce que toi-même, tu es dérangé au fond de toi, parce que toi, tu connais la vérité. Tu sais ce que tu as fait. Et parfois, ils vont prêcher aussi le faux pour avoir le vrai en te disant, mais on sait. On sait que c'est toi parce qu'on a eu les résultats ADN. Mais peut-être que c'est faux ce qu'ils te disent là. Mais toi, tu te dis, bon là, est-ce que je capitule tout de suite ou j'attends encore? Mais c'est un jeu. C'est un jeu. Chat à la souris. Mais finalement, tu vas te fatiguer parce que les enquêteurs, eux, ils peuvent suivre le dossier comme ça, se remplacer pendant même 5 ans, 10 ans. Mais toi, un humain, tu ne peux pas mentir pendant 5 ans, 10 ans. Non, à un moment donné, les nerfs vont lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fini par avouer parce que c'est fort. Porter une culpabilité comme ça, c'est humainement, c'est difficile. Et là, David dit, il portait la culpabilité en lui. Et lorsqu'il a confessé, il dit, « Oh, heureux l'homme que Dieu pardonne. Cet homme est réellement heureux. » Et nous continuons. Je gémissais toute la journée, verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Voilà la prière de David. Il dit qu'ainsi tout homme honnête, tout homme sincère, tout homme droit prie devant Dieu. Il dit, j'ai caché le péché, mais je l'ai caché. J'ai caché à qui? À Dieu. Mais lui-même, David dit, mais où irai-je? Où fuirai-je loin de ta face? Même sous les eaux, tu es éternel. David savait cela. Il le savait. Mais l'orgueil humain, la honte aussi, qu'on sache ce que tu as fait, te laisse dans cette situation-là. Mais la conséquence, c'est que tu meurs, tu souffres au-dedans de toi. Tu souffres. Mais qui profite de cette situation-là? C'est le diable. Parce que tant que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, c'est le diable qui jubile, qui est content. J'ai raconté une fois l'histoire d'un jeune qu'on a eu, un mineur isolé. Donc c'est un jeune qui vient de l'étranger et qui est déclaré sans parents. Et ce jeune venait d'Angola. Et donc quand ces jeunes arrivent, ils passent en audience. Non, ils passent d'abord devant une commission de l'aide sociale à l'enfance où il fait son récit de vie. Il raconte son parcours, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est arrivé en France. Et bien aimé, quand vous lisez des histoires, bon, généralement tous c'est la même histoire, hein, mais c'est une histoire qui fait pitié quand tu lis l'histoire. Non, il y a eu la guerre, mon père a été enlevé, on est rentré de l'école, ma mère a été tuée, et ma sœur, et ben quand tu lis l'histoire, alors ce jeune est allé à l'ASE, il a raconté son histoire, et il me dit, pendant que je parlais, les travailleurs sociaux, ces femmes qui étaient là, la directrice de l'ASE de l'heure, les psychologues, pleuraient. Il racontait son histoire, elle pleurait, elle prenait des mouchoirs, mais il me dit, il me dit, Jean-Luc, au fond de moi, je savais que tout était faux. Tout était faux. Mais ma sœur me dit, pour avoir les papiers ici en France, tu es mineur, il faut te déclarer comme ça tu seras pris en charge, totalement. Et il est chrétien, ce jeune-là. Il me dit, non. Je vois des femmes qui pleurent. Parce que je raconte mon histoire alors que tout est faux. Il dit, j'ai peur de Dieu. Je crains Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, Jean-Luc, fais toutes les démarches pour que je retourne au pays, en Angola. Il dit, moi, je vais aller voir la chef de service pour lui dire la vérité. Bien-aimé, faire cette démarche-là, qu'est-ce que ça va conduire? Ça fait que la sœur va aller en prison. Parce que c'est fausse déclaration, faux, usage de faux, manipulation. Le jeune a été pris en charge par l'ASE. On va demander un remboursement de tout ça. Lui-même, il risque d'être poursuivi. Mais ce jeune, il dit non, je suis chrétien. Là où j'étais, en Angola, j'étais à la chorale. En plus, un très bon musicien, je n'ai jamais vu ça. Il fait la basse, la guitare, le piano, il chante. Il dit, moi, en Angola, je servais Dieu. On me dit, viens en Europe, tu vas faire l'université. J'arrive, je me rends compte que j'ai 16 ans, alors qu'il en a 23. Je dois aller à l'université, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. On me dit, tu vas aller au lycée. On me dit, il dit, mais j'ai vu tout ça. J'ai dit, non, Jean-Luc, je ne veux pas. Bien aimé, moi qui étais là, j'ai dit, ah Seigneur, je te bénis parce qu'il y a un vrai chrétien plus que moi. Un vrai. Là, je dis non, ce jeune. Bien, vous savez combien de personnes meurent pour arriver ici en Europe, en traversant la Méditerranée? Mais lui, il me dit, demain, on appelle l'ambassade. Comme moi, je n'ai pas de moyens. Ou on appelle mes parents au pays, qui m'envoient le billet. Moi, je veux retourner en Angola. Je ne peux pas vivre le reste de ma vie ici en France avec une fausse identité, un faux nom, un faux. Tout est faux. Il dit non, je ne veux pas. Donc avec un collègue chrétien, on l'a aidé dans toute sa démarche. Il a prié et il est allé faire la démarche pour dire la vérité à tout le monde. Et la chef de service est tellement touchée, elle dit, écoutez, moi je ne marche pas dans le mensonge. Et j'apprécie vraiment, ça me montre que tu es vraiment quelqu'un d'honnête. Il dit, oui, parce que je suis chrétien. Elle dit, écoute, moi je veux faire je vais signaler cela. Mais sache qu'il y aura des conséquences très, très graves. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu veux reculer ou pas? Il dit non, faites ce que vous avez à faire. Entre-temps, sa sœur apprend qu'il a dit la vérité. toute la famille est contre le jeûne. Voilà ce que tu fais, voilà. Bien-aimé, ce jeune a souffert. Finalement, il a été pris en charge en famille d'accueil. Il a raconté son histoire aussi en famille d'accueil en disant « Tout dans mon histoire est fausse. Maintenant, si vous voulez me garder, vous me gardez. Si vous ne voulez pas de moi, la famille d'accueil a dit « Non, tu es tellement sage, tellement poli. » C'est une famille de musulmans. On est tellement heureux de t'avoir, nous, on va te garder. Si l'ASE décide de mettre fin à ta prise en charge, c'est leur problème. Mais nous, on choisit de te garder. Mais il me dit, ma joie à moi, c'est d'être libéré, d'être en paix avec Dieu. Parce que je ne pouvais pas prier. Comment je vais prier pour que Dieu me donne le papier alors que je sais que tout ce que j'ai dit est faux? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme va semer, Galates 6, 7, il va le moissonner aussi. Et il était conscient de cela. Cet exemple-là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Mais c'est ça que David décrit. Il dit, tant que je suis dans le mensonge, tant que je n'ai pas avoué mon péché, je souffre. Je suis malheureux. Alors je vais arranger rapidement la situation avec Dieu pour retrouver la paix. Mais comme on a dit, le diable va vouloir que ça traîne. On a dit le premier point, quand ça traîne comme ça, eh ben on n'est pas en paix avec Dieu. On ne peut pas prier sachant que telle personne a un problème. Ou sachant que moi, j'ai un problème avec un tel. On va tromper les humains, on va fermer les yeux, on va s'allonger, on va faire tout ce qu'on veut. Mais au fond, on sait que c'est... Bien-aimé, c'est une torture. C'est une torture. C'est ça que David Berkowitz, le fils de Sam, dit. Il dit, j'ai vécu dans une prison. Il dit, la prison dans laquelle j'étais, ce n'était pas les barreaux. Parce que les barreaux, il dit, ben, je n'espère même plus sortir parce qu'il a été condamné à 300 ans de prison. Parce qu'aux États-Unis, c'est des peines cumulées. Il a tué 6 personnes. Donc il a été condamné à 300 ans. Mais il dit, je vivais dans une prison. La prison dans laquelle j'étais, ce n'était pas les barreaux. Parce que les barreaux, moi, je sais que je veux mourir dans la prison. Mais la prison, c'était la prison dans mon cœur. Mais quand j'ai rencontré Jésus, les portes de la prison se sont ouvertes. Et je suis libre. Le journaliste nous dit, mais vous avez un problème. Vous êtes en prison. Et là, il avait déjà fait au moins 40 ans de prison. Donc il reste encore 260 ans. Le journaliste lui dit, mais comment vous dites que vous êtes libre alors que vous êtes en prison? Il dit, oui. Il dit, la véritable prison, c'est la prison dans la tête et dans le cœur. C'est ça la vraie prison. Maintenant, moi qui étais mauvais, qui ai tué des gens, qui ai fait du mal aux gens, aujourd'hui Dieu m'utilise pour prêcher l'évangile, pour dire à quiconque que Jésus peut le sauver. Alors, c'est ça la liberté que j'ai. Et je suis heureux de le faire. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Il était en prison, caïd, dur. Cet homme a fait bouger les États-Unis, l'Amérique, New York. Il a fait trembler New York. Mais au fond de lui, il était triste. Mais quand il a tout avoué, quand finalement il a accepté Jésus en prison, eh bien, il dit, j'ai été libéré. Mais le diable veut que la situation traîne. Un deuxième point, lorsque la situation traîne, ça empêche le plan de Dieu de s'accomplir réellement, totalement dans nos vies. Ça empêche le plan de Dieu de s'accomplir réellement, totalement dans nos vies. Je veux donner un exemple, c'est l'exemple, on va s'arrêter, c'est Jacob. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on connaît l'histoire sur la bénédiction qui a été usurpée à son frère. Et Jacob, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il aimait Dieu, il était intègre, honnête, mais habile. Donc avec sa mère, ils ont arrangé les choses parce que sa mère était au courant que lui dominerait sur son frère Ésaü. Jacob est parti loin. On se rappelle, il était chez Laban, il a vécu, il a été aussi à son tour escroqué, mais finalement Dieu a fait justice. Les 14 années, finalement il a travaillé pour lui. On connaît toute l'histoire. Mais ce qui me touche dans l'histoire de Jacob, c'est que Jacob décide, avec tous ses biens, tout ce qu'il a, de retourner voir son frère. En quelque sorte, faire la paix, parce que comme il est parti, son frère était en colère. Mais Jacob dit, je vais retourner voir mon frère, faire la paix. Sachant qu'en retournant comme ça, il risquait de se faire tuer. Parce qu'il a appris que son frère arrive avec une armée. Il le savait, il était conscient de cela. Et sur le chemin, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il a la fameuse vision, mais surtout, c'est là que Jacob a cette lutte avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à Jacob à ce moment-là? Tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. C'est pour nous dire quoi? Jacob était dans le mensonge. Bien que Dieu se servait de lui, parce que Dieu l'a prouvé avec Laban, avec toutes ces choses, il y avait comme le péché qui empêchait Dieu d'agir totalement dans la vie de Jacob, jusqu'à ce qu'il ait pris la décision de se repentir, de s'humilier et d'aller voir son frère pour demander pardon. Là, Dieu fait rentrer maintenant Jacob dans le plan qu'il a, qu'il avait formé, Israël. Il dit, tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur, alors maintenant tu n'es plus Jacob, tu es Israël, c'est ça. Quand on décide de se mettre en règle avec Dieu, alors on vit réellement d'abord l'autorité d'enfant de Dieu. Ce que nous sommes réellement. Parce que le péché, quand il vient, il donne un droit au diable. Le péché, quand il vient, eh bien, il enlève l'autorité. C'est comme un ministre qui est connu pour des malversations. Il a beau être ministre, mais il perd son autorité parce qu'on dira, mais oui, mais toi, tu es un voleur. Il a beau avoir ce titre-là, mais il n'a pas l'autorité. Et Jacob, quand il décide d'aller voir son frère au risque de se faire tuer, Dieu lui dit maintenant, on change de... Bien-aimé, quand j'ai médité ça, j'ai compris une chose, c'est que c'est comme si Dieu attendait que Jacob puisse se repentir. On a lu, hein, Luc 15, on dit quoi? Le père a vu de loin, donc le père attendait, il espérait que le fils revienne. Mais l'orgueil, la fierté du fils fait que non, non, reste encore, débrouille-toi tout seul. Mais quand il a décidé de revenir, le père le voit de loin. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, c'est pas écrit. Mais quand je lis l'histoire de Jacob, je me dis, c'est comme si Dieu attendait cela. Il n'est pas allé voir son frère, il n'a pas rencontré à ce moment-là. Mais sur la route, Dieu voit que voilà, cet homme est vraiment un serviteur tel que j'attends. Alors, Dieu lui dit, maintenant, tu n'es plus Jacob, maintenant tu es Israël. Finalement, les promesses que j'ai faites à tes pères, eh bien, ils s'accompliront en passant par toi. C'est ça. Quand on accepte d'arranger notre situation avec le Seigneur nous rétablit dans notre autorité. Les promesses que Dieu avait pour nous, il va les accomplir parce que désormais, nous sommes des instruments, des canaux par lesquels il va passer. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu va toujours nous utiliser. Mais il y aura une limite parce qu'il y a le péché qui est là. Voilà pourquoi Dieu dira à Jérémie dans Jérémie 15, il dit, pour que tu sois ma bouche, pourtant Jérémie était prophète. Et le rôle du prophète, c'est quoi? C'est de parler. Mais Dieu lui dit, pour que tu sois ma bouche, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Dieu dit à Jérémie en quelque sorte, pour que ce que tu dises ait vraiment de l'impact, toi-même, il faut que tu sois un instrument pur, un instrument saint, c'est-à-dire un instrument mis à part, qui vit pour moi. Ça ne veut pas dire que il ne va pas arriver que tu pèches. Il va arriver que tu pèches. Mais quand ça arrive, tu demandes pardon. Quand la colère arrive, Seigneur, je me suis encore fâché aujourd'hui. Pardonne-moi. Quand les mauvaises pensées arrivent, ah Seigneur, je suis chrétien, mais j'ai encore des mauvaises pensées. Seigneur, délivre-moi. C'est ça. Et tant qu'on traîne, Dieu est là, il nous attend. Il nous observe. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu continues à t'endurcir? Ou alors, tu décides d'arranger les choses? C'est ça que Dieu nous dit. Alors, rentrons dans notre autorité d'enfant de Dieu. Nous rentrons dans cela. Et un dernier point, c'est que quand on traîne dans cet état-là, on risque d'être surpris. On risque d'être surpris. On se rappelle de l'histoire dans Matthieu 25 des vierges. On nous dit qu'il y avait des vierges sages et des folles. Mais pourtant, toutes, elles étaient vierges. L'enseignement pour nous, chrétiens, c'est que, on peut considérer, même si ce n'est pas écrit, mais on peut considérer que toutes, c'était des chrétiens, comme nous aujourd'hui. On se dit tous chrétiens. Mais malheureusement, il y en a qui ont été surpris. Le maître est arrivé et il n'était pas dans les bonnes dispositions pour partir avec le maître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés. C'est ça. Tant qu'on reste dans cette situation-là, on peut être surpris. C'est une réalité. Matthieu 25 est là pour nous rappeler, pour nous dire, soyons prêts à tout moment. Soyons des instruments de Dieu mis à part pour lui. Sanctifiés. Quand la situation se présente, on fait la démarche. On dit, Seigneur, j'ai mal fait. Je reconnais, mais je demande pardon. Seigneur, je me suis mal comporté. Encore une fois, mais Seigneur, ta grâce est là pour des hommes comme moi. Alors c'est pour ça que je viens. C'est ça que dit le deuxième couplet de « To God be the glory ». « Oh perfect redemption ». The purchase of blood. On dit quelle rédemption parfaite. La rançon par le sang. On dit même le plus vilain, the vilest sinner, donc le plus vilain de pécheurs, peut bénéficier de cette grâce-là. Tout celui qui croit, il peut bénéficier de cela. C'est ça la grâce que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à méditer cette parole et à arranger là où nous avons arrangé. C'est peut-être un problème de pardon, c'est peut-être un problème de colère par rapport à quelque chose qu'on a vécu. C'est peut-être un problème de confession qu'on n'a pas confessé, qu'on a gardé pour soi. Et on a vu au travers de ce message que David, que Jacob passe sa démarche, que le fils perdu, par leur démarche, ils ont confessé qu'ils ont mal fait les choses. Et dans tous ces exemples, tous ont été rétablis dans leur autorité d'enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, de ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. À moi le premier, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui... Seigneur, aujourd'hui, a mis en lumière, Seigneur, toutes les choses enfouies, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui est la vérité. Il est écrit dans Ésaïe 55 que, Seigneur, tu envoies ta parole avec une mission, Seigneur. Tu envoies ta parole avec un projet. Et Seigneur, tu compares ta parole à la pluie qui tombe. Lorsque la pluie tombe, elle arrose le sol, Seigneur. Elle produit la vie. Et de la même manière, lorsque tu envoies ta parole produit la vie dans nos cœurs qui sont desséchés, qui sont arides, Seigneur. Seigneur, nous venons nous repentir, nous humilier, Seigneur, pour te dire pardon pour toutes les fois où nous avons résisté. Toutes les fois où nous avons eu l'occasion, Seigneur, de faire la paix avec notre bien-aimé, de faire la paix avec toi. Mais nous avons résisté parce que nous avons estimé que le mal que nous avons subi était tellement grand. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où, en ayant cette attitude, Seigneur, nous avons donné accès à la colère et au diable. Et il est écrit dans Jean 10:10 que le diable vient pour détruire. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit, pour convaincre nos cœurs, Seigneur, par rapport à tout ce qui n'a pas été dit, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous prions pour que ton esprit continue son œuvre, Seigneur. Que ton esprit puisse nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Que nous puissions être attentifs, obéissants à ton esprit pour, Seigneur, faire cette démarche, Seigneur. De ne pas garder les choses pour nous, Seigneur, et les nourrir, mais à faire la démarche, Seigneur, de nous repentir. La démarche, Seigneur, de présenter, Seigneur, nos excuses. La démarche, Seigneur, de clarifier les choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen.